Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le monde entier suspendu à l'origine d'un tir après la chute d'un missile qui a fait 2 morts en Pologne hier. Le risque d'escalade est réel. Nous reviendrons donc longuement tout au long de ce RTL Midi sur les possibles conséquences d'un tel incident. Nous serons notamment avec le général Dominique Trinquant à 12h10. À suivre également la Belgique qui veut expulser l'imam Mick Youssen, Donald Trump candidat à la présidentielle américaine de 2024. Et puis les Bleus encore rattrapés par les blessures. Christopher Nkoukou, touché à l'entraînement, a dû déclarer forfait. Randal Kolo Muani va le remplacer. Il rejoindra directement au Qatar les hommes de Didier Deschamps qui se sont envolés ce matin.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour la Guadeloupe. Pascal, l'île qui se réveille ce matin en accueillant le grand Charles Caudrelier, vainqueur de la Route du Rhum. À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Et aujourd'hui, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Mais vous l'écrivez comment, cette lettre? Toujours à la main? Est-ce que le clavier prend le pas sur le stylo? On verra ça. Juste avant 13h, LVT Midi, les sorties ciné du jour. Cinéma très social ce mercredi. La question du jour sur notre site RTL.fr. Nouveau joueur forfait, donc pour le Mondial. Êtes-vous inquiet pour l'équipe de France de football?
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h et bien sûr la corrida qui divise toujours nos auditeurs.
La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Peggy?
C'est un temps bien perturbé et agité, notamment sur le nord-ouest du pays.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
2 morts et le monde qui vacille après la chute d'un missile en Pologne hier près de la frontière avec l'Ukraine. Au moment même où la Russie multipliait ses frappes contre son voisin ukrainien, la crainte d'une escalade a évidemment saisi l'Europe et plus largement toutes les puissances réunies actuellement au G20. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Au lendemain de la chute de ce missile, est-ce que l'on sait désormais ce qui s'est passé? Qui l'a tiré?
Non, je ne sais pas. En revanche, il apparaît que le projectile, est-ce un missile, un drone, une roquette, un obus? Donc ce projectile qui a tué 2 personnes en Pologne était de fabrication russe. Ça ne résout pas la question de savoir qui l'a lancé puisque l'Ukraine utilise aussi beaucoup de matériel et de munitions de son vieil arsenal soviétique. Deuxième élément, le projectile a touché la Pologne quand une pluie de missiles lancés par la Russie s'abattait sur l'Ukraine. Quand les Russes attaquent ainsi des missiles ukrainiens, la défense antiaérienne tente de percuter les missiles russes pour les intercepter pour pas qu'ils fassent de ravages au sol. Est-ce que le projectile qui est tombé en Pologne a été lancé par la Russie ou par l'Ukraine qui espérait intercepter un missile lancé par la Russie? La distinction est importante et c'est sur ce point que les propagandes agissent l'une et l'autre en ce moment pour se dédouaner de toute responsabilité.
Merci Julien Fautra.
Emmanuel Macron lui a réagi depuis Bali où se tient le G20.
Le président français qui s'est montré particulièrement prudent.
Les circonstances ne permettent pas d'attribuer ces tirs et donc je resterai extrêmement prudent. Il y a en effet des premiers travaux qui ont été partagés par les États-Unis d'Amérique, mais il nous faut rester très prudents et donc expliciter toutes ces circonstances. Mais voilà, il y a en tout cas eu, ça c'est un fait, plus de 85 tirs de la Russie sans aucun doute sur l'Ukraine, le sol ukrainien contre les populations ukrainiennes. Et ça montre les très grands risques de déstabilisation qu'emporte aussi cette guerre.
Des propos recueillis par Dominique Tassara à Bali pour RTL. Alors, quelles conséquences après la chute de ce missile sur le sol de la Pologne, membre, on le rappelle, de l'OTAN? On en parle juste après le journal avec le général Dominique Trinquant. Famille, proches et camarades de collège de Lola se réunissent cet après-midi pour rendre hommage à la jeune fille tuée dans des conditions atroces. Il y a tout juste un mois, une marche dans son quartier du 19e arrondissement de Paris. Un hommage sobre et pas politisé à la demande de ses parents.
Gérald Darmanin voulait expulser l'imam Mick Youssen. C'est finalement la Belgique qui devrait le faire.
Oui, l'imam marocain qui s'était exilé cet été chez nos voisins pour se soustraire à un arrêté d'expulsion a été placé en centre fermé et les autorités belges, Elena Loison, ont la ferme intention de lui faire quitter le territoire.
Oui, les autorités belges n'ont pas tardé à prendre des mesures contre l'imam vers 17h hier, alors qu'Hassani Kyusen était convoqué à la maison d'arrêt de Tournai pour être informé de sa remise en liberté. Des policiers étaient présents pour lui notifier, dans la foulée, une interdiction de séjour sur le territoire belge de 3 ans, ainsi qu'un ordre de quitter la Belgique. Hassani Kyusen est donc reparti de la prison de Tournai dans une voiture de police, direction le centre fermé de Votum, près de Liège. Alors que la remise de l'imam à la France a été refusée hier par la justice belge, il pourrait paradoxalement être expulsé par la Belgique vers la France, son dernier lieu de résidence. C'est en tout cas ce qu'indiquent ses proches et sa défense. L'Office des étrangers ne confirme pas directement, mais dit être en contact avec la France. Selon nos informations, la France, elle, n'est pas favorable à l'accueil de l'imam. Quoi qu'il en soit, Hassani Kyusen a 10 jours pour déposer un premier recours contre cette obligation de quitter le territoire belge. D'autres recours pourraient suivre. L'imam devrait donc rester en Belgique encore quelques semaines au moins.
Elena Loison en Belgique pour RTL. Il a mis fin au faux suspense. Donald Trump est candidat à la prochaine présidentielle afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire. Ce sont ses mots. L'ancien président s'est déclaré cette nuit devant ses militants réunis dans sa résidence de Floride.
Le football à présent. Les Bleus sont dans l'avion pour le Qatar après un nouveau coup dur.
Encore une blessure, oui, celle de Christopher Nkunku, le meilleur buteur du championnat d'Allemagne. Touché au genou hier à l'entraînement, c'est l'attaquant Randall Colomoigny qui le remplacera. Il rejoindra directement ses coéquipiers à Doha demain. Ce sont donc 25 joueurs au lieu de 26 qui ont décollé ce matin du Bourget direction l'Émirat, Victor Pourchet.
Oui, juste après 11h, leur bus, lui, était arrivé une heure avant, évidemment entouré de policiers à moto. Moins d'une dizaine de supporters les y attendaient, comme Thomas.
On a profité de l'occasion pour enfin voir l'équipe nationale de plus près. Et puis, c'est quand même important, avant une Coupe du Monde, de montrer que, même si on n'est pas très nombreux ce matin, ils ont quand même les supporters derrière eux, malgré le froid.
Oui, malgré le froid, vous l'entendez dans sa voix, du vent et de la pluie, un temps à s'emmitoufler dans son écharpe bleu-blanc-rouge. Pas de quoi entamer l'enthousiasme de ses trois amis qui ont fait un écart pour venir saluer les Bleus.
On travaille juste à côté et du coup on est venu directement dès qu'on a su que le bus arrivait pour soutenir l'équipe de France.
Ça y est, c'est lancé, ils sont au top, en forme, on espère. Et puis ramener la coupe à la maison.
Bah pourquoi pas, ouais franchement, moi j'y crois.
Alors pas d'échange entre joueurs et supporters avant le décollage, les Bleus se sont engouffrés directement dans l'aéroport.
Hey, pour nous là, hey, ils sont pas sérieux, hey, vous êtes pas sérieux les gars, hein. Vous allez pas la voir la Coupe du Monde hein, si c'est comme ça.
On imagine que tout sera pardonné s'il s'impose contre l'Australie mardi prochain.
Victor Pourchet pour RTL. Et à propos d'avions, notez que les départs en vacances pourraient être perturbés pendant les fêtes. Deux syndicats du personnel navigant d'Air France ont déposé un préavis de grève du 22 décembre au 2 janvier. Tout ça sur fond de conflit social autour de l'accord collectif des hôtesses et stewards. La météo, on vous retrouve Peggy Broche, du vent, de la pluie, en tout cas au nord.
Oui, sur le nord-ouest exactement Céline, c'est vrai que cet après-midi on a cette perturbation qui va donner des pluies soutenues entre la Bretagne, la Normandie, en allant jusqu'à la Vendée avec beaucoup de vent aussi bien sur les côtes que dans les terres et des rafales jusqu'à 110-120 km/h sur les côtes, jusqu'à 70 sur les terres. Le vent va même se renforcer cette nuit, on pourra avoir des pointes à 130 dans la nuit sur la pointe du Cotentin ou du Finistère. Donc on a cette perturbation et sur le reste de la moitié nord, c'est un temps souvent gris avec quelques averses comme entre la Gironde, le Limousin et le Nord-Est et puis ailleurs entre les Pyrénées, l'Occitanie, les Alpes. Là c'est du beau temps, du soleil. En Corse, le temps se calme, les averses sont encore présentes sur l'Ouest mais beaucoup moins fortes que ce qu'on a eu ces dernières 24 heures. Tout ça sous des températures qui sont encore douces pour la saison, de 11 à Langres à 21 à Ajaccio, 20 à Perpignan, 19 à Toulouse, 18 à Agen, 17 à Bordeaux, 16 à Lyon, 15 à Rennes, 14 à Paris et 13 à Lille.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Notre tour de France va nous emmener loin aujourd'hui. Chaque jour, l'info au plus près de vous. Mais où sommes-nous ?
En Guadeloupe. Bonjour Frédéric Veil.
Bonjour Pascal, bonjour Céline.
À Pointe-à-Pitre, même pour être précis, en Guadeloupe donc, l'île qui vibre aujourd'hui pour la route du Rhum et où vous venez d'accueillir le grand vainqueur de l'épreuve, Frédéric, c'est Charles Caudrelier.
Oui, Charles Caudrelier qui vient donc de remporter sa première grande course en solitaire. Et quelle course, hein, puisque c'est la plus prestigieuse, une victoire qu'il dédie à toute son équipe.
Et c'est pas la victoire d'un homme aujourd'hui, d'un marin, c'est la victoire de toute une équipe. Hein. C'est vraiment cette course, on l'a gagnée ensemble. Voilà, c'est moi j'ai eu un bateau et je n'ai pas sorti un tournevis de la traversée. Donc c'est parce que les bateaux sont extrêmement bien préparés, il est extrêmement performant aussi. Donc c'est des gens qui toute l'année travaillent pour le rendre performant. Donc il y a beaucoup de gens derrière cette victoire. Et moi, je suis le dernier maillon. Je suis le pilote qui monte dans le baquet le dimanche pour prendre le départ de la course. Mais si derrière, les ingénieurs, l'équipe a pas travaillé, on ne peut pas gagner.
Frédéric, il était autour de 5h du matin quand il a passé la ligne. Il y avait beaucoup de matinaux comme vous pour l'accueillir. C'est une vraie ferveur en Guadeloupe ?
Ah oui, c'est énorme. Puis ça dure depuis 44 ans surtout. Vous l'avez dit, il y avait énormément de monde cette nuit pour attendre le vainqueur et ensuite pour l'accueillir ici au ponton et un petit peu partout sur l'île comme à Basse-Terre, à Sainte-Anne ou à Anse-Bertrand. Il y a partout, comme ici aussi également à Pointe-à-Pitre, il y a des villages de la route du Rhum. Une passion qui malheureusement peut être mortelle puisque cette nuit, on l'a appris il y a quelques instants, une embarcation suiveuse a chaviré au moment où il suivait le bateau de Charles Caudrelier. Et sur les 12 personnes à bord, deux ont malheureusement perdu la vie.
Frédéric, on rappelle le temps qu'a mis Caudrelier entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'on est dans les records ?
Ah bah oui, le record est explosé, si je peux dire, puisqu'il a mis 6 jours et 19 heures. Donc c'est presque une journée de moins que Francis Joyon il y a 4 ans. Donc c'est assez impressionnant comme record. Mais Charles Caudrelier ne voulait pas du record. Lui, le principal, c'était d'arriver en tête ici à Pointe-à-Pitre.
Non, mais ce qui est sidérant, c'est qu'à chaque course, le record tombe. Je rappelle que Mike Birch, en 78, avait fait la même traversée, évidemment sur un bateau qui n'était pas à l'époque des multicoques, mais il avait mis 22 jours. Et aujourd'hui, on est à 6 jours. Donc en 45 ans, on a divisé quasiment par 4. Et à chaque fois, on fait tomber un record. Vous êtes monté à bord du Maxi Edmond de Rothschild. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce bateau ?
Bon, c'est une machine d'une puissance inouïe, parce qu'en quasi une seconde, quand la grand voile se met dans le vent, ça se lève, et puis on se retrouve à 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus de l'eau. Il y a une sensation incroyable, évidemment, et on est à plus de 40 nœuds. Donc voilà, c'est des machines révolutionnaires qui permettent justement d'avoir ces temps de moins de 6 jours entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, mais qui sont quand même à pas mettre entre toutes les mains.
C'est ce que j'allais vous dire. Elle pourrait être utilisée par un bon skipper, j'ai envie de dire, du dimanche.
Pas vraiment. Non, faut vraiment que ce soit des skippers comme Charles Caudrelier, comme Thomas Comille, comme François de Cabard qui va pas tarder à arriver ici à Pointe-à-Pitre. Voilà, faut vraiment que ce soit des skippers très 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 chevronnés.
Eh bien merci Frédéric Bell. Dans un instant,
on parle de ce missile qui a fait 2 morts en Pologne et qui fait vaciller un petit peu l'équilibre international. On sera avec le général Dominique Trinquant. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Réunion d'urgence à l'OTAN au lendemain de la chute du missile qui a fait 2 morts en Pologne hier, près de la frontière avec l'Ukraine. La Pologne touchée donc sur son sol alors que la Russie multiplie les frappes sur les infrastructures ukrainiennes et que Kiev réplique avec sa défense anti-aérienne. Pour en parler avec nous, le général Dominique Trinquant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Alors, ce matin, les Américains estiment que c'est le système de défense aérien ukrainien qui est à l'origine de ce tir. On est plus prudent du côté français. En quoi est-ce si crucial de savoir qui est vraiment l'auteur de ce tir ?
Eh bien, la première raison est de savoir si le missile venait de Russie ou ne venait pas de Russie. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr d'identifier s'il s'agit d'un accident, c'est-à-dire un missile qui a été détourné, qui a été brouillé ou qui est mal guidé, ou si c'est intentionnel. Il semble que le dernier cas, l'intentionnalité ne soit pas là. Les Russes ont tout de suite réagi, le ministère de la Défense russe, en disant qu'ils ne tiraient pas en direction de la Pologne. C'est une certitude, je crois, aujourd'hui. Alors, les Américains parlent du système S-300, qui est un système russe, il faut le rappeler. Donc, c'est bien un missile russe, mais entre les mains des Ukrainiens, dans leur défense aérienne, qui aurait peut-être dans le déploiement, dans les tirs contre les missiles venant de Russie, aurait été détourné ou aurait raté son tir et serait rentré en Pologne. Donc c'est extrêmement important, ça veut dire que la Russie n'a pas l'intention du tout de toucher un pays de l'OTAN, voire même qu'elle n'a pas commis une erreur de tir et que ça serait plutôt un sujet lié à la défense anti-aérienne ukrainienne.
Mon général, si je vous dis que c'est la zone militaire la plus regardée au monde, que tout le monde sait précisément ce qui se passe là-bas parce que il y a des caméras, en tout cas des moyens de savoir les choses. Et qu'on ne dit pas la vérité, les chefs d'État ne disent pas la vérité, mais qu'ils savent et que l'intervention de Joe Biden va dans ce sens. C'est-à-dire que lui-même a sifflé la fin de la récréation en disant clairement ce n'est pas un missile russe, en tout cas lancé par les Russes. Est-ce que je me trompe en disant cela ?
Non, alors vous avez raison en disant que c'est la zone la plus regardée. Mais ceux qui regardent le plus, j'allais dire, sont les Américains. Donc oui. Ce sont eux qui ont...
Mais c'est lui qui a parlé, Biden, qui d'une certaine manière a sifflé pour moi la fin de la récréation en disant « c'est pas les Russes qui ont frappé, qu'on lancé ».
Mais vous avez raison, et ceci contredit la déclaration un peu intempestive du président Zelensky, qui a dit tout de suite « je vous avais bien dit que la Pologne serait attaquée, etc. etc. » Donc lui, il joue, je l'ai dit plusieurs fois, parfois un peu trop la guerre médiatique, et entre la guerre et la guerre médiatique, il y a quand même une grande différence.
Donc il faut interpréter à l'aune de ce qu'a dit Biden, les réactions ensuite de Macron, d'Emmanuel Macron et de tous les chefs d'État.
Bien sûr. Alors d'abord, tous les chefs d'État en question, enfin une grande partie du moins, qui sont concernés, sont actuellement à Bali. Donc j'allais dire, ils peuvent se passer l'information en direct.
Mais ils le savent, c'est ça que je veux dire. Ils le savent, ils sont au courant, même s'ils ne le disent pas aussi clairement que je le dis là.
Oui, ils le savent, mais bon, la déclaration du président Biden a mis fin à la récréation, comme vous le dites. Il y a une réunion de l'OTAN qui va se réunir. Alors ça n'empêchera pas de dire à la Russie, attention, quand on tire 100 missiles, des erreurs ne sont pas impossibles, que ce soit d'ailleurs des erreurs russes ou des erreurs ukrainiennes. On est vraiment sur une zone de conflit dans laquelle un dérapage, à cause d'un accident, n'est pas à exclure.
Et ce dérapage-là, s'il intervient demain, par exemple, il peut faire basculer le conflit si ça touche un pays de l'OTAN, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Pologne ?
Alors, je ne le pense pas pour la raison simple, c'est que la Russie n'a aucun intérêt à frapper un pays de l'OTAN. Elle sait bien que dès qu'elle touchera un pays de l'OTAN, intentionnellement, on s'entend, à partir de ce moment-là, le bouclier de l'OTAN se lèvera et la Russie n'a aucune chance contre les forces de l'OTAN. Elle a déjà du mal à reculer correctement devant les Ukrainiens, devant les forces de l'OTAN, elle n'a absolument aucune chance. Donc merci. Je crois que si vous voulez cette bascule, on n'y croit pas.
Eh bien merci Général Dominique Trinquant, merci d'être toujours aussi précis, aussi clair et pédagogique pour nous qui avons du mal à décrypter parfois les choses. Dans un instant, RTL Midi, votre vie, on parle tout de suite des lettres. Est-ce qu'on écrit les lettres à la main ou avec le clavier ? À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui... Heureusement qu'on a les chansons des années 70 pour illustrer parfois nos propos. C'est William Scheller, ça.
C'est ça. Vous êtes fort hein, en blind test, Pascal.
Je suis fleur, enfin,
des années 70, oui. 70, c'est vrai qu'il faut préciser. L'écriture, donc, dans un carnet à spirale ou pas, qui garde toujours une place importante chez les Français. Alors que téléphone, ordinateur ou tablette sont aujourd'hui bien ancrés dans notre quotidien, 7 Français sur 10 préfèrent l'écriture manuscrite. C'est le résultat d'une étude Opinion Way pour BIC. Et 85% d'entre eux pensent que l'écriture permet de mieux retenir les informations, de mieux organiser ses idées. Bonjour Laurence Pierson.
Bonjour.
Vous êtes graphopédagogue. D'abord, qu'est-ce que c'est, graphopédagogue ?
Grapho, c'est l'écriture, et pédagogue, ben, c'est l'apprentissage. On a dû créer ce métier parce qu'il y avait un grand déficit de l'enseignement de l'écriture en France. Donc, on reçoit des personnes, des enfants, quelques adultes qui ont des difficultés avec leur écriture manuscrite et on a des techniques pour leur permettre, avec un petit entraînement quotidien, de progresser.
Alors, est-ce que vous êtes surprise, vous qui travaillez tous les jours sur ce sujet-là, du résultat de cette étude ?
Non, je suis pas surprise parce que les gens sont très attachés à l'écriture manuscrite. Et en plus, s'il y a 85% des gens qui pensent que ça aide à mieux retenir, à mieux s'organiser, c'est parce que c'est vrai. Ça a été prouvé par des études scientifiques. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la question. et qui ont parfaitement démontré que la mémorisation est meilleure avec un geste de traçage de lettres qu'avec un simple geste d'adressage où on pose juste son doigt sur un clavier. Donc c'est quelque chose qui est juste. Après, le fait que les gens aiment écrire à la main ne veut pas dire qu'ils le font pour des choses tout à fait quotidiennes. Comme ils envoient des emails, ils écrivent des textes au clavier, mais souvent les gens préfèrent organiser leurs idées à la main, faire un brouillon, faire des listes. L'écriture manuscrite a encore sa place dans le quotidien, je pense.
Alors, oui. 7 Français sur 10, bien sûr, qui se tournent vers l'écriture manuscrite, mais moi ce que je voudrais savoir, c'est les moins de 30 ans. Est-ce que les moins de 30 ans, aujourd'hui, le rapport est le même ? Parce que j'ai le sentiment que les moins de 30 ans, un stylo ou un stylo plume ou un stylo bille, ça n'existe pas beaucoup et tout passe par le numérique.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le numérique. Il y a d'ailleurs des initiatives comme celle de la semaine de l'écriture qui ont été lancées il y a, je crois, une dizaine d'années en France avec des concours d'écriture manuscrite. Il y a un deuxième concours auquel participe également mon association qui s'appelle l'association 5e qui fait participer des classes à un concours d'écriture manuscrite. On essaye de créer des événements pour éviter que l'écriture ne soit que quelque chose de scolaire.
Mais est-ce qu'on a les chiffres pour les moins de 30 ans ? Est-ce que 7 Français
sur
10...
Ah, moi, j'ai pas de chiffres.
Oui, vous ne savez pas
Moi, je fais pas de sondage.
Oui.
Moi, je fais pas de sondage, mais ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où on aide les... Enfin, moi, je reçois des personnes qui ont des difficultés d'écriture. À partir du moment où ces difficultés se résolvent, une grande partie d'entre eux se saisissent de l'écriture parce qu'en fait, il y a plaisir à écrire. C'est quelque chose d'agréable quand on sait le faire de manière confortable. Je pense qu'il y a beaucoup un problème d'enseignement et peut-être effectivement que le fait que l'écriture soit beaucoup associée seulement au scolaire, ça joue dans l'esprit des gens parce que s'ils ne voient pas, si les enfants ne voient pas leurs parents écrire, s'ils ne voient pas leurs parents recevoir des lettres ou en envoyer ou envoyer une carte postale, etc., c'est sûr qu'ils vont avoir moins tendance à l'investir que s'ils le voient au quotidien.
Et on note aussi cette évolution, c'est que les jeunes se disent de plus en plus sensibles pour réduire leur consommation de papier, ce qui peut jouer aussi dans l'avenir de l'écriture manuscrite. Merci beaucoup Laurence Pierson. Je rappelle que vous êtes graphopédagogue, fondatrice de l'association 5E, enseignement de l'écriture pour élèves, étudiants et enseignants. Merci beaucoup.
C'était RTL Midi, votre vie. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée, Céline.
Un missile qui tombe en Pologne, le monde entier qui redoute une escalade dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'OTAN qui se réunit en urgence, et dans le même temps, Moscou continue de pilonner l'Ukraine. On fera le point dès le début du journal. Hommage à Lola, un mois après le meurtre atroce de la fillette de 12 ans à Paris. Une marche aura lieu dans son quartier cet après-midi. La ristourne du gouvernement sur le carburant a baissé cette nuit. Elle est de 10 centimes le litre désormais, et cela jusqu'à la fin de l'année. Mais après, comment aider les automobilistes ? Bercy y réfléchit. Donald Trump officiellement candidat pour la présidentielle de 2024. On y reviendra longuement après le journal avec Lionel Gendron, notre correspondant aux États-Unis. Et puis les Bleus dans les airs pour rejoindre le Qatar, mais sans Christopher Nkoukou, le meilleur buteur du championnat d'Allemagne. Nouvelle victime de l'épidémie de blessures qui frappe les Bleus. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Nous sommes mercredi, on parlera donc cinéma avec Stéphane Boutsock et vous verrez que sur le plan des mœurs, on va faire le grand écart. La question du jour sur notre site rtl.fr. Êtes-vous inquiet pour l'équipe de France de football ?
Tous ces sujets, nous les aborderons à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer. Évidemment, la corrida qui est un des sujets les plus qui divise le plus nos auditeurs depuis tant d'années.
La météo à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Peggy Broche.
Un temps bien perturbé, notamment sur le nord-ouest du pays.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Les Occidentaux sont prudents au lendemain de la chute du missile qui a fait 2 morts en Pologne. Prudents sur l'origine du tir, probablement tir de défense ukrainien selon les Américains. La France, elle, ne se prononce pas clairement à ce stade. Un tir de défense aérien, car depuis hier, Valentin Boissé, l'armée russe pilonne littéralement le territoire ukrainien avec de gros dégâts sur les infrastructures stratégiques du pays.
Absolument. Et d'ailleurs, l'Ukraine est encore ce matin sous cloche. Les alertes anti-aériennes résonnent sur l'ensemble du territoire et ça n'arrive pas tous les jours. Hier, 80 à 90 missiles ont été tirés par la Russie, un certain nombre interceptés donc, mais les dégâts sont énormes et ça touche l'ensemble du territoire, y compris les villes de l'Ouest comme Lviv ou Loutsk, moins exposées habituellement. Des bombardements qui ont endommagé des infrastructures stratégiques, 10 millions de foyers ont été privés d'électricité et les coupures de courant se sont étendues jusqu'en Moldavie, le pays voisin. Le maire de Kiev a parlé ce matin d'une semaine difficile à venir pour ses habitants, car à cause de ces frappes, le chauffage fonctionne mal dans la capitale et il va faire moins 10 degrés la semaine prochaine. Une situation aggravée par l'arrêt automatique de 2 centrales nucléaires depuis hier soir.
Merci beaucoup Valentin Boisset pour RTL.
RTL Midi.
Un mois après le meurtre de Lola, un nouvel hommage sera rendu à la fillette de 12 ans cet après-midi dans son quartier de Paris.
Une marche à l'appel cette fois de la famille dans le 19e arrondissement de la capitale. Marche sobre, pas politisée, loin des débats et polémiques qui avaient suivi le drame. La principale suspecte, Dabia, est quant à elle incarcérée à l'isolement, Maxime Lévy. Et un mois après le crime, la question du mobile se pose toujours.
Oui, non seulement le déclencheur de ce meurtre reste pour le moment inconnu, mais les déclarations qu'elle a pu faire sont parfois incohérentes. Ses souvenirs aussi entre rêve et réalité, notamment lorsqu'elle détaille les sévices qu'elle aurait fait subir à Lola. Les proches de la suspecte estiment qu'elle ne s'est jamais remise de la mort de ses parents il y a quelques années, des difficultés pour dormir, une humeur très changeante que la sœur de Dabia avait remarquée. À ce jour, la seule explication possible pour expliquer son geste est extrêmement futile. La mère de Lola, gardienne de l'immeuble, lui avait refusé un badge d'accès pour rentrer dans la résidence. Ou alors était-ce le viol ou le meurtre en eux-mêmes qui ont motivé la suspecte? Ces différents examens psychiatriques seront précieux pour lever le voile sur un mobile incertain. Des expertises qui permettront également de dire si le discernement de Dabia était aboli ou non au moment des faits et donc de savoir si elle est pénalement responsable.
Au-delà de ces motivations, Maxime, du mobile, donc, il reste plusieurs zones d'ombre.
Oui, notamment sur l'implication de son ami Rachid, celui qui l'a amené en banlieue, en voiture, avec la malle dans le coffre. Était-il au courant de ce qu'elle contenait? A-t-il couvert son ami? Lui assure aux enquêteurs qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il pouvait y avoir dedans. Le juge l'a tout de même mis en examen pour recel de cadavre.
Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
Elle s'annonce particulièrement virulente cet hiver et pourtant les Français ne se précipitent pas pour se faire vacciner contre la grippe.
Vaccination ouverte à tous depuis hier, on le rappelle, et plus seulement aux plus fragiles, mais Agathe Landais, vous nous révélez que malgré les appels insistants des autorités de santé, très peu de Français se sont fait vacciner.
Oui, selon les données de l'assurance maladie qu'on nous a confirmées ce matin, au 9 novembre, 4 millions de personnes avaient présenté leur bon de prise en charge pour se faire vacciner. 4 millions contre 5 millions de vaccinés à la même période l'an dernier. Ça inquiète beaucoup les autorités de santé, car dans le même temps, ça y est, la grippe arrive. La région Bretagne devrait passer prochainement en phase épidémique et les indicateurs sont à la hausse sur toute la France avec 4 semaines d'avance par rapport à d'habitude. Les médecins recommandent donc aux plus âgés et aux malades chroniques de prendre rendez-vous sans attendre pour recevoir leur vaccin.
Information RTL signée Agathe Landais.
Ça, c'est une question qu'on va pouvoir poser d'ailleurs aux auditeurs. Est-ce que vous avez peur désormais de vous faire vacciner? Parce que c'est le chiffre que donnait Agathe est intéressant. Passer de 5 à 4 millions, c'est quand même 25% de moins. Vous l'avez peut-être déjà constaté, le plein est plus douloureux ce matin.
Aïe, aïe, ouais, 2,02. Bon, c'est cher, mais il n'y a pas le choix, malheureusement. Faut faire avec, faut bien aller au travail.
Vu le monde qu'il y a eu hier aux pompes, c'est pour ça que je l'ai fait exprès ce matin, parce que impossible d'accéder aux pompes.
Ouais, quitte à payer plus cher, au moins vous n'avez pas attendu.
Oui, c'est ça. On fait avec, de toute façon, on est obligé de subir, comme d'habitude.
Salé, hein, le passage à la pompe ce matin, puisque depuis minuit, la ristourne gouvernementale sur le carburant a baissé. Elle est passée de 30 à 10 centimes le litre. Alors, 10 centimes de ristourne, ça, ce sera le cas jusqu'au 31 décembre. Mais après Martial You, il y aura probablement un autre mécanisme pour aider les automobilistes. Mais à Bercy, on cherche encore à en dessiner les contours.
Oui, c'est pas évident. Techniquement, on nous assure que tout est prêt, c'est-à-dire qu'il y aura une plateforme informatique où vous entrerez vos revenus et le numéro de carte grise de votre voiture. Et si vous entrez dans les critères, eh bien vous toucherez la ristourne quelques jours plus tard. Ce sera calculé sur la moyenne des kilomètres que vous parcourez chaque année, chaque mois. Alors le problème, c'est quels seront ces fameux critères ? Il faudra un travail et être obligé d'utiliser sa voiture pour aller au bureau. Reste la question du niveau de revenu, parce que ce sera sous condition de revenu. Un des responsables de Bercy me confiait « Le problème, c'est de savoir à partir de quand on est riche, en fait, dans ce pays. Autrement dit, à partir de quel salaire on sort du dispositif d'aide. Pour le moment, on s'oriente vers les Français qui sont sous le salaire médian, c'est-à-dire un peu plus de 1500 euros par mois. Donc si on fait un calcul, un couple avec deux enfants,
brut ou net,
en net, il faudra gagner entre 3 et 4 000 euros par mois pour en bénéficier.
C'est pas la même chose, 3 ou 4.
Pardon ?
C'est pas la même chose, 3 ou 4 000 euros, c'est
non,
pas la
c'est
même
parce
chose.
Que comme c'est calculé, je vous donne une moyenne vague, c'est sur la déclaration de revenus, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Mais alors là, c'est une moyenne, ça n'est pas totalement arrêté comme critère. Et puis alors, c'est une mesure inflammable, bien entendu, parce qu'elle va tomber. Donc il va y avoir un gros paquet de Français qui ne seront plus dans cette mesure. Elle va tomber au 1er janvier, c'est-à-dire au moment où vous aurez aussi la hausse des tarifs sur le gaz et l'électricité de 15% malgré le bouclier tarifaire. C'est le moment aussi où vous aurez une inflation sur les produits alimentaires à plus de 10% et au moment où le gouvernement essaiera de passer sa réforme sur les retraites. Donc pas évident.
Merci pour toutes ces bonnes nouvelles, Martial You, chef du service économie d'RTL. De la route aux aéroports, notez que les départs en vacances pourraient être perturbés pendant les fêtes. Deux syndicats du personnel navigant d'Air France ont déposé un préavis de grève du 22 décembre au 2 janvier. Et ça sur fond de conflit social autour de l'accord collectif des hôtesses et des stewards.
Cette fois, elle est bien partie. La nouvelle méga fusée de la NASA a décollé ce matin. Première étape du retour des Américains sur la Lune.
50 ans, oui, après la dernière mission Apollo. Alors, pas d'alunissage dans l'immédiat. La fusée va simplement faire le tour de la Lune et revenir sur Terre. Mais à terme, l'idée de la NASA, c'est bien d'envoyer l'homme sur Mars, comme le rappelle François Forget, directeur de recherche au CNRS.
Pour beaucoup de passionnés de l'espace, c'est un moment très important. C'est vraiment le premier signe du retour de l'exploration, comme on le faisait dans les années 60. L'idée d'aller explorer Mars est vraiment une réalité pour les ingénieurs de la NASA, et en Europe aussi. C'est-à-dire que beaucoup des développements sont toujours faits en se disant « Oui, mais si on le fait pour la Lune, est-ce que ça servira pareil, est-ce que ce sera adaptable sur Mars ? » C'est quelque chose d'assez officiel. Je pense que ce n'est pas de la propagande, c'est une réalité pour tous les ingénieurs. Tous mes collègues que je côtoie travaillent pour le projet lunaire vraiment en ayant Mars en tête à tout instant. Et donc, on peut envisager un premier vol vers Mars, probablement une première mission. On ne fera que se mettre en orbite dans les années, fin des années 2030 peut-être.
François Forget, directeur de recherche au CNRS, avec Martin Choc pour RTL.
Eux aussi se sont envolés, chaque thermique en perspective pour les Bleus qui arrivent au 14 aujourd'hui. Il y a 33 degrés.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Hein. Prenez-moi mes phrases, Pascal. Les hommes de Didier Deschamps ont effectivement quitté l'automne et Paris direction l'Émirat et ses températures estivales, vous le disiez, Pascal.
J'avais pas vu.
C'est pas grave. Vous êtes tout pardonné. Mais Baptiste Durieux, ils ne sont que 25 à être montés dans l'avion après la blessure, une de plus de l'attaquant Christopher Nkunku hier à l'entraînement.
Leader incontesté de son club Leipzig, leader incontestable du championnat d'Allemagne, meilleur buteur français depuis la saison dernière avec Benzema et Mbappé. C'est un vrai coup dur pour les Bleus. Christopher Nkunku n'était pas pressenti pour être titulaire, mais il a apporté une sérieuse concurrence et beaucoup d'épaisseur à l'attaque des Bleus. Pour le remplacer, Didier Deschamps pioche encore en Allemagne, à Francfort, où brille Randal Kolo Muani. L'ancien Nantais, acteur majeur de la Coupe de France 2022, remporté par les Canaries, a confirmé outre-Rhin de cette sélection seulement, mais un profil longiligne, rapide, polyvalent et technique, capable d'occuper et combler plusieurs postes en attaque.
Baptiste Durieux pour RTL. Et puis record battu sur la route du Rhum, Charles Caudrelier est arrivé à Pointe-à-Pitre ce matin, parti de Saint-Malo. Il ne lui a fallu que 6 jours, 19h et 47 minutes pour traverser l'Atlantique sur son trimaran géant. La météo, on vous retrouve Peggy Broche, on le disait, 32-33 degrés attendus
avec
à Doha cet après-midi.
C'est important, je crois.
Ah bah là, chez nous aussi, c'est humide, mais c'est plus frais, hein, Peggy.
C'est un peu plus frais, oui, même si on est quand même souvent au-dessus des normales de saison. De 11 à Langres à 21 à Bastia aujourd'hui. Dans le sud, les températures sont encore bien élevées. 20 à Toulon, 19 à Montpellier, 18 à Tarbes, 17 à Bordeaux, 16 à Cognac, 15 à Clermont-Ferrand, 14 au Havre et 13 à Orléans. Alors, côté ciel, c'est humide également. Alors, surtout au nord, notamment sur le nord-ouest, avec des pluies soutenues tout au long de l'après-midi entre la Bretagne, la Normandie et la Vendée, avec également beaucoup de vent. Ça peut souffler jusqu'à 100 km/h sur les côtes, jusqu'à 80 dans les terres. Et ce soir, le vent va se renforcer, notamment sur les côtes du Finistère et du Cotentin, avec des pointes possibles à 130 km/h. Sur le reste de la partie nord du pays, sur le nord-est notamment, on a un ciel plutôt sombre, bien gris, avec quelques averses. Et pareil entre l'Aquitaine et le Limousin. Et partout ailleurs, dans le sud, on a un ciel plutôt lumineux, avec un beau soleil même dans le sud-est. Et en Corse, ça s'améliore par rapport aux dernières 24 heures où il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. Il reste quelques averses sur l'ouest, mais beaucoup moins que ces dernières 24 heures.
Merci Peggy.
Après la pause, le retour de Trump, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Il s'est présenté à l'élection américaine. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
C'était cette nuit à Palm Beach en Floride. Donald Trump annonçait sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2024. L'ancien président qui tente de recréer l'alchimie de 2015-2016. Mais après la déception des midterms, les élections de mi-mandat, le cœur n'y est pas complètement du côté des républicains. Bonjour Lionel Gendron.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Bon, d'abord, cette annonce, c'était pas vraiment une surprise.
Non, c'était pas une surprise. Il avait fait plusieurs fausses annonces. Le parti républicain s'y attendait, même s'ils ont voulu le retarder un petit peu dans son annonce, parce qu'il va y encore y avoir une élection sénatoriale le 6 décembre en Géorgie. Mais effectivement, Donald Trump ne pouvait pas faire autrement que se présenter, puisqu'il avait maintes fois annoncé, même s'il y avait une rumeur comme quoi il pourrait plutôt se présenter en tant que speaker, c'est-à-dire chef de la Chambre des représentants, plutôt qu'à la Maison-Blanche. Mais il a confirmé ce que tout le monde attendait hier.
Les candidats pro-Trump ne se sont pas imposés, le Sénat n'a pas été gagné et la Chambre, ce n'est pas le raz-de-marée annoncé. Donc, est-ce que vous pensez que les républicains vont suivre Trump ?
Alors, dans les sondages, ça reste la personnalité forte côté républicain. 66% des personnes qui se disent républicaines supportent le mouvement de Donald Trump, le mouvement MAGA. Après, effectivement, il est dans une position beaucoup moins flamboyante qu'il y a encore quelques mois. Son magnétisme a un petit peu perdu. D'ailleurs, on l'a senti hier, il était beaucoup moins vindicatif. Il avait l'impression parfois de s'ennuyer. Donc, est-ce que les républicains vont suivre ? C'est toujours... J'étais à Mar-a-Lago hier soir, alors vous êtes avec des fans de Trump, donc forcément eux, c'est une vision peut-être un petit peu faussée, donc forcément ils suivent, mais il y a des alternatives et puis il y a aussi une fatigue pour certains républicains, ils en ont un petit peu marre en fait que Donald Trump parle toujours du passé, parle de 2020 et ils aimeraient des candidats qui
aillent un petit peu au-delà. C'est le rapport à la vérité quand même qui est compliqué pour Trump.
Ah oui, ça c'est le rapport à la vérité, puisque c'est son angle d'attaque. Et en fait, il peut toujours dire sur sa base des supporters, on va dire 30-40% des supporters, il peut dire ce qu'il veut, c'est-à-dire que ce soit vrai ou pas, il sera suivi. Après, effectivement, il va falloir qu'il change de discours, qu'il change de logiciel, parce que dire que les élections ont été volées, alors que la justice, y compris des juges républicains, y compris des gouverneurs républicains, disent non, cette élection a été gagnée par Joe Biden, au bout d'un moment, ça ne va plus marcher.
Ça ne passera plus. Il faudra de toute façon passer par la primaire pour être désigné candidat des républicains.
Alors, a priori, oui. Sauf qu'hier, il était un petit peu dans sa déclaration. Il a dit que cette candidature, c'était pas la candidature d'un politicien ni d'un mouvement désigné par une convention, mais une candidature plus large. Alors, il laisse une petite porte ouverte sur une candidature, on va dire, à part. Il pourrait se présenter en tant qu'indépendant, pourquoi pas. A priori, quand même, il va passer par la primaire. C'est dans plus d'un an. Il risque de se passer beaucoup de choses. Et là, il va être challengé. Et il y a beaucoup de monde.
Et notamment Ron DeSantis. Est-ce que Ron DeSantis commence à prendre ses distances sur Trump ?
Oui, il a mis un petit tacle hier. Il était en conférence de presse et la question lui a été posée sur les attaques de Donald Trump qui commence de plus en plus à effectivement être en colère après DeSantis. En fait, il lui reproche le simple fait d'exister hein, et d'avoir du poids. DeSantis a répondu lors de la conférence de presse. Je réponds, tout ça c'est du bruit et à ceux qui me critiquent, je réponds juste, regardez les chiffres. Sous-entendu, moi j'ai été réélu gouverneur avec plus de 19 points d'avance et les candidats soutenus par Donald Trump, ils n'ont pas tellement brillé.
Ça va être passionnant en tout cas et c'est pourquoi on imaginerait que si Ron DeSantis s'était investi, Trump pourrait pourquoi pas se présenter en parallèle sans l'investiture des Républicains. Mais il va falloir attendre bien sûr encore. Merci Lionel Gendron, merci beaucoup. On va parler cinéma puisque c'est mercredi avec Stéphane Boutsock. À tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc comme tous les mercredis. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Pascal, bonjour Céline, bonjour tout le monde.
Bonjour
et Peggy d'ailleurs.
Et bonjour. Peggy aussi, oui, c'est vrai. On ne dit pas assez bonjour à Peggy.
Non,
de
mais c'est
générale.
Pas grave, ne vous inquiétez pas, je suis là.
Stéphane, vous êtes venu nous parler des sorties ciné du jour et vous allez faire le grand écart.
Oui, j'étais pas très très bon en gym à l'école, mais je vais quand même tenter. Aujourd'hui, je vais vous mettre en avant deux films. Il y en a un qui parle de la Vierge Marie et l'autre qui parle de la prostitution en Allemagne. Donc, on va commencer par La Vierge Marie. Film qui s'appelle Reste un peu, de et avec Gad Elmaleh. Mais attention, c'est pas une comédie à la Gad Elmaleh, c'est-à-dire c'est pas Coco, c'est pas Chouchou. C'est un film assez étrange qui parle de la foi et de la conversion en cours de Gad Elmaleh au catholicisme. Alors, ça prend la forme d'un vrai faux documentaire. C'est l'histoire de Gad Elmaleh qui rentre des États-Unis et qui, dans sa valise, a ramené une statue de la Vierge Marie. Et sa mission, c'est d'apprendre à son entourage, ses parents, ses amis, sa famille, ben justement, qu'il entame cette conversion. Donc, famille juive, ça va pas sans poser de problème, évidemment. Il y a des scènes extrêmement drôles, pour le coup, parce que ce sont les vrais parents de Gad qui jouent ses parents. Quand ils découvrent, en effet, la statue de la Vierge dans la valise de leur fils, je peux vous dire que ça vaut le détour, mais au final, le film interroge sur la foi au sens large, en sachant, en effet, et c'est ce qu'on va entendre, que des conversions de ce genre, y en a plein et qu'elles épousent des formes multiples. Écoutez Gad Elmaleh.
Toutes les combinaisons déjà que vous pouvez imaginer, elles existent. Mais elles existent toutes, hein. Je ne vais pas vous les faire, vous pouvez les faire tout seul, de juif à musulman, de musulman à catholique, de catholique à juif, de juif à chrétien. Mais c'est un tabou, en fait. Et à la fois, c'est un tel courage. C'est un tel acte de vérité. Moi, je me souviens la première fois que j'avais entendu parler de la chanteuse Diams qui allait vers l'islam. Alors, tout de suite, j'entendais des gens se positionner et essayer de dire ce qu'ils pensaient. Déjà, est-ce qu'on peut commenter? Est-ce qu'on a le droit de juger? Est-ce qu'on a le droit d'émettre une observation sur le parcours si intime, si personnel de quelqu'un? Non. Et puis, à partir du moment où la personne ne te donne pas de leçons et ne te dit pas ce que toi, tu dois faire, ben moi, je respecte. Je ne peux que être en amour, en empathie, en accompagnement, en écoute. Pour moi, c'est une sœur en humanité. C'est ton chemin, t'es heureuse dans ce chemin, ben, God bless you.
Dieu te bénisse, hein, pour ceux qui ne parlent pas très très bien anglais. Sujet passionnant quand même, hein, notre rapport à la foi, au mystère, à la croyance. Le film s'appelle donc « Reste un peu » de et avec Gad Elmaleh, et son papa, et sa maman et sa sœur aussi.
Et puis pour ceux qui aiment le cinéma social, ils sont servis aujourd'hui, Stéphane.
Il y a en effet pas mal de films qui abordent ces sujets. Film Les Engagés avec Benjamin Laverne, histoire tirée de plein d'histoires vraies. Là aussi, comment un jeune homme va sauver, héberger, cacher un jeune migrant au moment où la loi interdisait ces gestes de solidarité. La loi a changé depuis. Belle réflexion aussi.
Autre film d'Émilie Frèche qui est romancière.
Absolument,
également.
Émilie Frèche. Très très bien fait. Et Benjamin Laverne, définitivement. Très très bon représentant de la nouvelle génération des acteurs français.
Qui était passionnant à écouter avec Mohamed Bouafsi ce week-end.
Le week-end dernier, absolument. Les femmes du square, tiens, on a tous, en tant que parents, eu des nounous embaucher des jeunes femmes, souvent d'origine étrangère, souvent qui sont occupées de nos gamins. Et bien ce film, qui est une comédie, mais une comédie sociale en effet, aborde ce sujet-là. Et puis donc on en arrive au dernier film qui s'appelle La Maison. Bah dites donc, qui s'appelle La Maison.
Non, pas ça, mais vous nous avez promis un grand écart et on ne le voit pas arriver.
La Maison, donc, avec Anna Girardot, c'est tiré d'un bouquin qui a été écrit par une journaliste qui s'appelle Emma Becker, qui à un moment a eu l'idée de s'intéresser et de se plonger dans le monde de la prostitution en Allemagne, où c'est beaucoup plus encadré, où c'est médicalisé, où c'est sécurisé.
C'est surtout autorisé. Alors qu'en France, ça ne l'est pas.
Absolument. Et elle y a passé 2 ans, parce qu'elle avait aussi sans doute un rapport au sexe à gérer, sa propre personnalité, et elle confie à Anna Girardot le soin de l'incarner. Alors attention, le film est interdit aux moins de 16 ans, c'est pas qu'il y a des scènes hard, mais il y a de la nudité, et puis on montre et on dit les choses dans ce film. Écoutez comment la jeune comédienne s'est préparée à ce rôle-là, qui franchement n'est pas évident.
C'était ses sensations à elle qui m'intéressaient. Et alors, à partir de là, je me suis intéressée aux sensations que moi-même, en tant qu'actrice, j'allais ressentir, autant avec ma curiosité, avec mes propres fantasmes. Et je savais qu'en le vivant, en le jouant, il allait se passer quelque chose chez moi. Et j'avais envie d'être dans ce ressenti. Il y a forcément un avant, un après, mais il y en a un à chaque rôle, il y en a un à chaque film. Celui-là était d'autant plus puissant pour moi parce qu'il m'a permis aussi d'aller chercher une féminité, une puissance dont je n'étais pas forcément consciente de l'avoir en moi.
Troublante Anna Girardot dans le film La Maison, qui lui aussi sort donc aujourd'hui.
Dernière chose, puisque vous êtes là, Mascarade est un succès, mais il est rare qu'un film divise autant. Ça arrive bien sûr, mais c'est rare. Il y a des gens qui détestent ce film, et il y en a d'autres comme moi, comme vous, qui l'adorent.
Mais est-ce que c'est pas aussi un peu le cinéma de Nicolas Bedos, ça? Quand même.
C'était plus consensuel, La Belle Époque.
Oui, je suis d'accord, mais il est très conscient de ça. Il a fait aussi un film, je dirais pas plus engagé, mais plus, clivant, segmentant, pour prendre des mots que j'aime pas du tout, qu'avant, quand même, il parle du rapport des hommes et des femmes, il parle de la Côte d'Azur, il parle de la corruption,
il
parle...
Il y a des gens qui sont allergiques, vraiment, qui ont trouvé ça vulgaire, abominable,
alors
mal joué.
Moi, je trouve ça formidablement écrit et filmé et joué.
Je suis d'accord avec vous.
600 000 entrées, là, ça fera 800 000 au final.
C'est bien, Mascarade, et puis il a du talent, donc faut aller voir ce film pour se faire une idée, déjà. Vous l'avez vu
Non, c'est pour ça que je ne prends pas part au débat. Parce que
Allez-y, on se fait un petit point mercredi prochain.
Avec plaisir. Vous l'avez vu ?
Non, pas encore, vous m'avez donné envie de voir, Stéphane, donc il faut que j'y aille.
Allez-y.
Il est 12h58 et Damien Béchiot, qui est le maître des horloges, un peu, ici, me dit il faut de l'heure à l'heure. C'est ce que je m'empresse de faire. À tout de suite.
RTL Midi.